Qui n'a pas eu envie de hurler quand pour la énième fois, on vous a demandé si votre bébé dormait bien, s'il faisait ses nuits ? La question semble cruciale. Presque même avant de savoir comment s'appelle votre bout de chou, on s'interroge sur son sommeil et surtout savoir s'il vous fiche la paix et que vous pouvez dormir tranquillement sans être dérangé. En France, faire dormir son enfant est devenu un sport national. On pourrait se demander s'il en a toujours été ainsi. On pourrait aussi voir si certains parents ne commencent pas à se rebeller contre le dictat du fait-dodo et envoyer balader nos saintes croyances. On va vous expliquer aujourd'hui que non seulement si votre bébé ne fait pas ses nuits, bah c'est normal, mais aussi que c'est bien.
Je m'appelle Anaïs, j'ai 34 ans et je suis la maman de Cléo qui a tout juste 10 mois. Avant de faire un bébé, j'ai beaucoup hésité parce que je savais que les enfants, ils se réveillaient beaucoup et moi, ça me faisait très peur parce que je pensais pas que j'allais réussir à gérer parce que j'ai moi-même un problème en fait avec les réveils nocturnes. Et une chose qui m'a vraiment surprise quand Cléo est arrivée, c'est qu'avec l'allaitement et la sérotonine qui est sécrétée quand elle tète, bah je m'endormais incroyablement rapidement. Et on était aussi étrangement synchronisés. On se réveille et on dort en même temps. Quand j'ai repris le travail, elle avait tout juste 3 mois et j'étais assez choquée de la réaction de la plupart de mes collègues. Quand je leur disais qu'elle se réveillait encore 5 à 6 fois par nuit, ils me regardaient d'un air entendu, du style « ouais, elle te mène en bateau » et puis ils m'ont carrément, littéralement conseillé de la laisser pleurer. Et ça, c'est une chose que j'ai toujours refusé de faire. La période qui a été vraiment, vraiment dure, c'est la période des dents, parce que j'avais pas le temps de récupérer. Elle faisait pas un cycle de sommeil complet, elle se réveillait toutes les 10 à 20 minutes en hurlant. Donc ça, c'était vraiment dur, et là, je pense vraiment que c'est... Voilà, il faut s'accrocher, quoi. Aujourd'hui, je pense que c'est important de suivre son rythme, d'être à son écoute. Et puis, comme moi, j'ai la chance, vraiment la très grande chance, d'avoir eu l'opportunité de m'arrêter de travailler... La journée, bah, je me repose dès que je peux. Et puis la nuit, je relativise beaucoup. Je me dis que les petits bouts, ils savent pas où ils sont, ils ont très peur, donc ils ont besoin d'une figure rassurante. Et voilà, je pense que c'est notre rôle d'être là pour eux.
Nous sommes aujourd'hui avec Claude Suzanne Didier-Jean Jouveau. Elle s'intéresse depuis plus de 40 ans à la naissance, à l'allaitement et à tout ce qui touche la parentalité. Elle est rédactrice en chef de la revue Allaiter aujourd'hui et l'auteur de nombreux ouvrages tels que « Pour une parentalité sans violence » ou encore « Le cododo pourquoi comment » ou « Comment dorment les bébés ». C'est donc sur cette question du sommeil que nous allons l'interroger aujourd'hui. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parents, Galère sa mère. Bonjour Claude Suzanne Didier-Jean Jouveau et merci d'être parmi nous.
Bonjour, très heureuse de parler de ce sujet qui me passionne depuis longtemps.
et qui je pense va intéresser beaucoup de parents qui se posent des questions sur ce sommeil. Dites-nous pourquoi nos bébés se réveillent-ils aussi souvent et pourquoi c'est si long parfois pour qu'ils se calent sur notre rythme d'adulte ?
Alors juste pour commencer, je voudrais, vous avez parlé de ce qui se passe en France, qui ne s'est peut-être pas toujours passé de la même façon et qui ne se passe pas non plus pareil partout.
Bien sûr.
Et je me souviens d'une étude qui avait interrogé les parents sur les problèmes de sommeil qu'ils voyaient chez leurs enfants. C'était des enfants de 16 à 24 mois. Et ça avait comparé 3 pays, la France, Taïwan et le Japon. Et en France, il y avait 47% des parents qui pensaient que leur enfant de cet âge-là avait un problème de sommeil, contre 18% à Taïwan et 11% au Japon. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent comme ça par la façon dont la société considère les choses et qui crée en fait des problèmes là où en fait il n'y a pas de problème. Donc effectivement, je pense que savoir que les réveils nocturnes sont normaux, ça aide déjà à baisser un petit peu la tension et faire qu'on lâche un peu mieux prise et ça se passe mieux. Donc le problème est de savoir que le sommeil des bébés n'est pas le même que le sommeil des adultes. Déjà, les cycles de sommeil à la naissance sont beaucoup plus courts que chez l'adulte. Chez l'adulte, c'est à peu près autour de 90 minutes. Et chez les bébés à la naissance, c'est autour de 45-50 minutes.
Ce qui veut dire qu'un enfant se réveille toutes les 45-50 minutes pour passer d'un cycle à un autre.
Il peut éventuellement, oui, entre deux cycles, quand il passe d'un cycle à un autre, effectivement, il se trouve dans une phase où il peut se réveiller. Et de fait, on verra qu'effectivement, il se réveille. En phase de sommeil paradoxal, enfin, ce qu'on n'appelle pas sommeil paradoxal chez l'adulte, on l'appelle sommeil agité chez les nourrissons. Ça dit bien ce que ça veut dire.
Oui.
Chez l'adulte, quand il est en phase de sommeil paradoxal, il a du mal à se réveiller. Enfin, si on veut le réveiller, on va avoir du mal. Alors qu'au contraire, dans la phase équivalente chez les nourrissons, le réveil est facile. Donc, en fait, il y a des phases de sommeil agitées, entre guillemets, qui sont plus nombreuses puisque les cycles sont plus courts. Et en plus, elles sont plus longues. La part de sommeil paradoxal chez l'adulte, c'est 25% d'un cycle, alors que la phase de sommeil agité chez les nourrissons, c'est 60% du cycle. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup plus de phases où l'enfant est susceptible de se réveiller. En plus, avant 3 mois, il n'y a pas d'organisation circadienne, hein, c'est sur les 24 heures, ce qui fait que ben, nous, quand on est adulte, a priori, on est réveillé le jour et on dort la nuit. Le nouveau-né, à la naissance, il n'est pas du tout organisé comme ça. À partir de 3 mois, cette organisation circadienne commence un peu à se développer, mais on estime qu'elle n'est pas mature, complètement terminée, avant 2 ans. Donc, on peut comprendre qu'effectivement, pendant un bon bout de temps, les bébés ne vont pas avoir un réveil calé sur celui des adultes.
Bien sûr. Comme je le disais, quand on accouche, on nous pose sans cesse la question de savoir si le bébé fait ses nuits. C'est insupportable. Est-ce qu'il fait ses nuits ? Ça, c'est toujours ce qu'on entend. Mais est-ce que vous pouvez nous dire combien de bébés dorment réellement toute la nuit ? Et déjà, qu'est-ce qu'on appelle une nuit d'ailleurs ? C'est quoi une nuit pour un bébé ?
Alors déjà, la définition de faire ses nuits pour un bébé, c'est dormir 5-6 heures d'affilée. C'est pas dormir de 8 heures du soir à 8 heures du matin. Pas du
oui,
tout
c'est pas
ça.
12 heures.
Et même ça, je veux dire, c'est très fréquent que le nombre de réveils dure pendant un bon bout de temps. Je vais vous citer par exemple une étude québécoise de 2018 qui a été faite sur 700 dyades mère-bébé. À 6 mois, 37,6% des bébés ne faisaient pas leur nuit si on considérait que faire ses nuits, c'était 6 heures d'affilée. Et si on considérait que c'était 8 heures d'affilée, ils étaient 57% à ne pas faire leur nuit. À 12 mois, pour faire ses nuits de 6 heures, ils étaient 27,9% à ne pas faire leur nuit. Et si on considérait que c'était 8 heures d'affilée, ils étaient 43,4% à ne pas faire leur nuit. Je pourrais vous citer plein d'autres études, mais bon, disons que ça, c'en est une assez récente.
Mais c'est rassurant, c'est pour dire aux parents, en tous les cas, qu'un enfant qui ne dort pas plus de 4-5 heures d'affilée avant 6 mois, c'est complètement normal.
Ben oui, mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est pas du tout ce qu'on entend en général.
Pourquoi est-ce qu'on a une si grande pression en Occident, alors que vous le disiez, dans d'autres pays du monde, on se pose même pas la question de prendre son bébé avec soi pour dormir ou de l'allaiter même très tardivement? C'est quoi l'origine de cette pression ici?
Pas vraiment d'explication. C'est vrai que y a eu toute une puériculture qui s'est développée, disons, à partir de fin 19e siècle, début 20e siècle, en Occident en général, hein, où effectivement l'idée c'était que. Alors il y avait deux choses. Il y avait le fait de ne pas interférer avec la vie normale, entre guillemets, des parents, mais il y avait aussi un côté un peu dressage. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il se plie à une discipline. Et un bébé, par exemple, l'histoire de l'allaitement, que je connais bien aussi, on a commencé à dire que le bébé devait seulement téter toutes les 3 heures, voire 4 heures. Et c'était une façon aussi de le discipliner. Tout ce qui n'allait pas dans ce cadre-là était considéré comme des caprices et qu'il fallait surtout pas céder à ces caprices. Il fallait pas donner à téter avant la fin de cette période. Il fallait pas prendre le bébé dans ses bras s'il pleurait, il fallait pas prendre le bébé avec soi pour la nuit, etc. Je pense qu'il y a toute une question de discipline des corps qui s'explique.
Et heureusement, aujourd'hui, on commence à revenir sur ces idées, mais c'est vrai
oui,
que
oui, ça reste. Ça reste
hein. C'est
oui.
Vraiment, ce sont des choses qu'on entend énormément. Vous parliez d'allaitement. On entend aussi souvent dire, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, que l'allaitement fait que le bébé se réveille plus souvent que le bébé au biberon.
Alors, là aussi, je vais vous parler d'une étude récente, parce que bon, il y en a d'autres hein, qui montrent que soit il se réveille pareil, soit il se réveille moins ou. Mais je vais vous parler d'une étude que je trouve passionnante, qui est assez récente, puisqu'elle date là aussi de 2017. En fait, pendant longtemps, quand on a fait des études sur le sommeil des bébés, on se basait sur des questionnaires des parents. c'est-à-dire combien de fois votre bébé s'est réveillé la nuit dernière ou les trois nuits dernières ou des choses comme ça. Depuis quelque temps, on peut aussi se baser sur des choses plus objectives, disons, à savoir des actigraphes, comme en fait des montres connectées, vous savez, qui peuvent montrer la durée du sommeil, les phases du sommeil, etc. Et donc, maintenant, on peut, parce que, je veux dire, les questionnaires des parents, c'est un peu subjectif, hein. Et donc, cette étude, à mon avis, c'est la première qui a été faite de cette façon-là. Elle a utilisé les deux méthodes. C'est-à-dire qu'il y a eu des questionnaires des parents. On leur a demandé, effectivement, combien de temps votre bébé a dormi, combien de fois il s'est réveillé, etc. Et puis, on a aussi équipé les bébés et les parents d'actigraphes qui a mesuré objectivement ce qui se passait. Et donc, le résultat, c'est qu'on a constaté, donc c'est entre 4 et 18 semaines. Mm-hmm. Donc, il y avait les bébés exclusivement allaités et les bébés exclusivement nourris au biberon ou au lait industriel. En fait, la fréquence des réveils nocturnes était la même dans les deux groupes d'enfants. Et même à 18 semaines, les enfants qui étaient exclusivement allaités dormaient un peu plus longtemps que ceux nourris au biberon.
Donc encore une fausse croyance.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a comparé ce qu'avaient répondu les parents dans au questionnaire et la réalité objective, entre guillemets, des actigraphes, on s'est rendu compte que dès 8 semaines et jusqu'à 18 semaines, les mères qui donnaient exclusivement un lait industriel surestimaient la qualité et la durée de sommeil nocturne. C'est-à-dire qu'elles surestimaient la durée de sommeil de leur enfant et elles sous-estimaient la fréquence des réveils.
Comment est-ce qu'on explique ?
J'en sais rien, c'est pas évident.
Mais oui.
C'est comme si... Je connais une autre étude, alors, qui porte pas tout à fait sur le même sujet, mais qui porte quand même sur le sommeil et qui pourrait s'expliquer de la même façon. C'est une étude qui avait été faite en Angleterre il y a plusieurs années sur le lieu de sommeil des bébés. Donc, on avait demandé aux parents où est-ce que dormait leur bébé et on avait installé ensuite des caméras infrarouges dans la chambre des parents. Je précise évidemment que les parents savaient qu'on allait installer ces caméras. On les a pas pris en traître. Hein. Et quand on a comparé les données objectives des vidéos et les réponses qu'avaient faites les parents, on s'est aperçu qu'à peu près la moitié des enfants dont les parents avaient déclaré qu'ils passaient la nuit tout seuls dans leur chambre, passaient tout ou partie de la nuit dans la chambre des parents, en fait. Donc, c'est comme si les parents répondaient, c'est inconscient, hein, oui. Je dirais, ils font pas ça volontairement, ce que la société attend d'eux, en fait. Et je pense que pour cette histoire de comparer bébé allaité et bébé au biberon, c'est peut-être un peu la même chose. Il y a tellement cette idée qu'effectivement, les bébés allaités se réveillent plus, se dorment moins, que voilà, j'ai pas d'autre explication. Hein. Il y en a peut-être une autre. Hein.
Non, mais c'est intéressant de voir que justement, il y a des vieilles croyances qui perdurent comme
ouais.
ça,
ouais,
encore
ouais,
aujourd'hui,
ouais.
même si on essaye de s'en extirper. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler de certains spécialistes qui, on le sait bah, encore, hein, conseillent de laisser pleurer le bébé. Quand on peut le comprendre, hein, quand certains parents sont aussi épuisés et demandent conseil, on leur répond ça. D'autres, bah, on en parlait tout à l'heure, de ne pas prendre dans les bras pour qu'ils apprennent à s'endormir tout seuls. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, des voix commencent à s'élever, et notamment grâce aux neurosciences. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors oui, on sait qu'effectivement, laisser pleurer un bébé, alors que ce soit la nuit ou le jour, hein, a des effets sur effectivement la construction de son cerveau parce que les décharges de cortisol notamment, entre autres, qui peuvent être à un certain niveau vraiment dommageables pour le cerveau. Et à ce sujet-là, pareil, je voulais vous citer une étude que je trouvais très intéressante. Il s'agissait de, c'est pas un grand nombre, hein, c'était 25 bébés avec leur mère, des bébés âgés de 4 à 10 mois. Et donc, ils étaient allés avec leur mère participer, je mets participer entre guillemets parce que je pense pas qu'eux étaient d'accord spécialement pour participer à ça. Mais donc, c'était un programme hospitalier de 5 jours d'éducation au sommeil, entre guillemets, hein, ce qu'en anglais, ils appellent ça sleep training.
Les sleep school, sleep learning, oui, qui
voilà.
existent beaucoup en Australie, par exemple.
Donc, le but était qu'ils apprennent à s'endormir sûrement sans aide. Hein, et puis, effectivement, s'ils se réveillaient, qu'on ne vienne pas les consoler ou leur donner à téter ou rien du tout. Donc, ils étaient dans une pièce. Et la mère était dans une pièce voisine où elle pouvait entendre si l'enfant pleurait, se réveillait, mais elle n'avait pas le droit d'intervenir. Et donc, on a analysé le taux de cortisol, hein, donc l'hormone du stress. Il en faut du cortisol, hein, je ne dis pas que...
Oui.
Quand le taux est trop fort, c'est quand même un signe de stress et ça peut effectivement, à force, endommager le cerveau. Donc, on a analysé le taux de cortisol dans la salive des bébés et dans la salive des mères, mmh. au début de l'endormissement et après que les bébés se sont endormis. Le premier jour, la plupart des bébés ont pleuré au moins 20 minutes. Et comme prévu, on a vu une augmentation du taux de cortisol chez les bébés comme chez les mères. Mmh. Parce que ça stressait les mères d'entendre leur bébé pleurer alors qu'elles n'avaient pas le droit de faire quelque chose. Au troisième jour, les bébés n'exprimaient plus leur détresse en pleurant. Hein, c'est souvent ce qu'on dit, hein. De toute façon, vous laissez pleurer les bébés pendant 3 jours, et puis au bout de 3 jours, c'est fini, ils vont plus se réveiller. Ça marche pas toujours, il y a des bébés même comme ça qui sont rebelles et qui, au bout de 3 jours, continuent, mais bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont arrêter de pleurer la nuit. Le problème, c'est que quand on a analysé le taux de cortisol chez les bébés, qui ne pleuraient plus donc, hein, leur taux était toujours aussi élevé, donc ils étaient en fait toujours aussi stressés, mais ils avaient renoncé à le manifester, voilà. Par contre, le taux de cortisol chez les mères était redescendu au plus bas, parce qu'elles n'entendaient plus leur bébé pleurer, donc elles n'étaient plus stressées. Donc, je pense que tous ces programmes-là, effectivement, le résultat, c'est des bébés toujours stressés et des mères ou des parents, parce que pas seulement les mères, le père aussi, qu'on a rendu insensible aux signaux de leur bébé, finalement.
Est-ce que si on a laissé pleurer son bébé, voilà, on a fait partie de cette méthode dite de dressage, est-ce que ça a des conséquences néfastes sur sa construction après plus tardivement? Et est-ce qu'on peut rattraper le coup pour qu'il ne soit pas traumatisé?
Alors, c'est vrai que sur le coup, je pense qu'effectivement, le message que reçoit le bébé, c'est ça ne sert à rien de manifester ma détresse puisque personne ne va venir me consoler. Mmh. Après, effectivement, si on se rend compte que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Je pense effectivement qu'on peut rattraper le coup, on peut. Je pense qu'on est très plastique hein, en tant qu'être humain et que du coup les parents vont être attentifs une fois qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas ce qu'ils avaient fait de mieux en la matière. S'ils sont attentifs aux émotions de leur enfant et qu'ils y répondent, je pense qu'effectivement on peut rattraper le coup, bien sûr. D'ailleurs, on voit souvent des parents qui n'ont pas pris l'enfant avec eux la nuit, l'ont laissé pleurer, etc. Quand l'enfant a 2-3 ans, se met à faire des cauchemars, tout ça, et vient chez eux, ben, ils le prennent, ils le laissent venir.
Et est-ce que si justement on aide son bébé à s'endormir en restant à côté de lui ou si on dort avec lui, est-ce qu'après notre enfant grandissant deviendra dépendant de nous et manquera d'autonomie plus tard? Est-ce que ça, c'est un risque?
Ça, c'est toujours la grosse question. Moi, je pense, et pas mal d'études le montrent, que si on pense que c'est un besoin de l'enfant, répondre à son besoin au moment où il exprime ce besoin, où il a vraiment ce besoin, ça ne veut pas dire qu'on fait perdurer le besoin au-delà de l'âge où il n'en aura plus besoin. La plupart des enfants qui ont été comme ça maternés, laisser dormir avec soi ou à côté de soi, etc., non, ils ne sont pas plus dépendants une fois plus tard, même plutôt l'inverse, parce qu'ils ont eu ce dont ils avaient besoin au moment où ils en avaient besoin.
Oui, c'est très assurant s'ils en ont eu besoin, donc finalement, ça ne les rend pas plus dépendants de nous, plus autonomes,
non.
Ça les sent plus en confiance finalement.
Oui, j'ai une étude aussi que j'aime bien citer à ce sujet-là, bon, qui ne parle pas spécialement du sommeil, hein, mais du maternage en général.
Oui.
C'est une étude qui a commencé dans les années 60 avec des bébés de 8 mois à peu près qu'on a observés pendant une journée avec leur mère. Et on les a catalogués, disons, selon la qualité de la relation entre la mère et le bébé. Et ça allait de une relation froide, ça passait par normal, ce qu'ils entendaient par normal. Et puis, il y avait une catégorie caressante ou extravagante.
Oui.
C'est le mot anglais. c'est une étude américaine, extravagante. J'adore. Et ces bébés de 8 mois ont été revus quand ils avaient la trentaine à peu près.
Ah oui, c'est drôle.
Et ce qui est très étonnant, hein, n'est-ce pas, c'est que les bébés dont la relation avec la mère avait été cataloguée de froide ou de normale, même c'était à peu près pareil au niveau de la façon dont ces jeunes adultes se sentaient par rapport à un degré d'anxiété ou de confiance en soi ou d'angoisse, etc. Et c'était ceux qui avaient eu cette relation caressante, voire extravagante, qui s'en sortaient le mieux. Donc je pense que bon, ça dit tout sur les conséquences à long terme.
Il faut vraiment que les choses évoluent dans ce sens-là et qu'on puisse l'entendre et le comprendre.
Oui.
Donc là, on parle donc de réveils normaux des enfants, des bébés. On parlait aussi tout à l'heure des cauchemars. Quand est-ce qu'on peut vraiment parler de troubles du sommeil chez un enfant? Et quand est-ce qu'il faut du coup consulter? Quand est-ce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un souci?
Je ne sais pas si j'ai vraiment de réponse à cette question.
Il y a la pédiatre espagnole Rosa Jové, dans son livre « Dormir sans l'âme », qui disait qu'il y a certains bébés qui ont des vrais problèmes médicaux qui expliquent leurs multiples réveils.
Oui,
il faut toujours vérifier d'abord.
Bien sûr. Un bébé qui a du reflux, par exemple, un reflux gastro-œsophagien, ça peut effectivement... Un bébé qui se réveille en hurlant plusieurs fois la nuit et qui a l'air vraiment de souffrir... Oui, bien sûr. C'est pas un problème de sommeil dans ce cas-là, mais c'est un problème médical qui fait qu'il a ce problème de sommeil. Il l'a pas seulement pendant la nuit. Mais oui, bien sûr. Un bébé qui pleure de façon inconsolable, il y a souvent quelque chose à voir avec. Mais ça veut pas dire qu'il y a un âge à partir duquel il faut s'inquiéter. Dans ce cas-là, il faut s'en inquiéter tout de suite.
Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des âges, justement, où les problèmes de sommeil peuvent se révéler? Parce qu'on entend souvent des parents qui disent « Oh, ben, je comprends pas, il dormait très très bien, et puis d'un coup d'un seul, il fait plus ses nuits. » Qu'est-ce qui peut expliquer ça?
Alors, bon, tout dépend effectivement de l'âge. C'est vrai qu'il arrive assez fréquemment que des bébés qui, entre guillemets, faisaient leur nuit, hein, vers 3 mois par exemple, se mettent à se réveiller à nouveau plus vers 5-6 mois ou un peu plus tard. Il y a des études qui montrent que c'est assez fréquent et ça ne veut pas dire que c'est un problème de sommeil. Alors après, pourquoi ils se mettent à se réveiller? Bon, je parle souvent des dents. Bon, je suis partagée par rapport à cette histoire parce que c'est vrai que des fois, on met sur le compte des dents tout et n'importe quoi. N'empêche que, effectivement, ça... On peut expliquer, hein, on peut comprendre que ça puisse faire mal quand même. Hein. Les adultes qui ont eu des dents de sagesse qui sont sortis...
Oui, on sait que ça fait très mal.
Ça peut... voilà.
Je confirme.
Et on sait que ce genre de douleurs sont souvent exacerbées la nuit. Hein. Enfin, beaucoup de douleurs, pas seulement les douleurs dentaires. Hein. Donc, pourquoi pas? Et c'est vrai que souvent, les bébés qui se réveillent, qui continuent à se réveiller la nuit, souvent... Ça s'arrête quand toutes les dents de lait sont sorties, quand même.
Oui.
Hein, donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à voir avec ça. Puis, il y a sans doute d'autres raisons.
Bah, quand l'enfant grandit, peut-être quand il rentre aussi à l'école, après, il y a différentes choses qui peuvent faire que le petit se réveille.
Oui, alors après, les terreurs nocturnes, les cauchemars. Bon, je ne sais pas si ça s'appelle des problèmes de sommeil, ça.
Non, je pense que oui, c'est juste, on a juste à être attentif sur comment notre enfant se sent et comment est-ce qu'il s'endort et comment il passe
voilà,
la nuit.
Voilà, souvent, il y a des choses qui sont passées dans la journée qui vont se répercuter la nuit. Et d'ailleurs, pour les plus petits bébés, on a l'impression des fois que des acquisitions qu'ils sont en train de faire font qu'ils vont se réveiller aussi la nuit s'ils continuaient à s'exercer, je sais pas, quand ils commencent à marcher à quatre pattes ou des choses comme ça, quand ils commencent à se redresser, bon ben c'est vrai que s'ils se réveillent, ils vont se redresser à gripper les barreaux de leur lit s'ils sont dans un lit à barreaux et des choses comme ça, oui.
Qu'est-ce que vous diriez pour finir à ces parents qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu désœuvrés et surtout très fatigués parce que leur bébé se réveille de nombreuses fois et qu'ils se sentent au bout du rouleau? On entend souvent des parents qui nous disent « on est au bout du rouleau ». Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Alors, je pense que savoir que c'est, entre guillemets, normal, c'est une partie de la solution. Parce que je pense que quand les parents comme ça sont au bout du rouleau, ils sont aussi inquiets en se disant, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez mon bébé ou en moi en tant que parent, il y a quelque chose que j'ai pas fait bien pour que ça en soit là. Donc savoir que c'est normal, que leur bébé est normal et qu'ils n'ont pas fait quelque chose de mal jusque-là, souvent ça fait descendre la pression quand même, hein. Après, le fait de dormir avec le bébé, souvent, ça aide quand même à mieux dormir soi-même.
On parle de dormir en cododo, donc...
Oui, oui, alors.
Alors, on rappelle tout de même les règles de sécurité hein, dont on nous parle souvent, c'est-à-dire sans grosse couette, sans gros coussin.
Voilà, oui. Mais en tous les cas, que le bébé soit dans la même chambre, ça commence quand même à passer, même dans les recommandations de santé publique, hein, puisque dans le nouveau carnet de santé, il est dit quand même, il est préférable, si cela est possible, de placer le lait de votre bébé dans votre chambre pour les 6 premiers mois au minimum.
Avant, on nous disait 3 mois, c'est vrai que ça a changé.
Voilà, maintenant, c'est 6 mois minimum.
Ah, très bien.
Donc, je pense qu'en fait, c'est quand même moins fatigant si effectivement le bébé est à côté que si on doit aller se lever, aller à l'autre bout de l'appartement, rester éveillé. Là, on est complètement réveillé et pour certaines personnes, ça va être difficile de se rendormir. Alors que si le bébé est à côté, ça va être quand même beaucoup plus facile. Pour le bébé, d'ailleurs, aussi, de se rendormir et pour les parents.
Donc, on se dit que c'est normal. On se dit que ça va passer aussi.
Oui, 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 oui.
Voilà.
Oui, oui.
On se dit peut-être aussi que nous, on était passés par là, mais on l'a oublié.
Oui.
Très bien. Bah, écoutez, merci en tous les cas. Merci Claude-Suzanne Didier, Jean Jouveau, d'avoir répondu à nos questions sur le sommeil. Nous avoir ouvert les yeux à nous les parents, hein, nous les adultes. Comme je disais, qu'avons oublié que nous aussi, nous étions il y a quelques années des enfants, des bébés, pour qui le sommeil n'était pas celui d'aujourd'hui.
Alors, est-ce que je peux dire une dernière chose quand même ?
Bien sûr, on vous écoute.
Je pense aussi que c'est peut-être le moment, quand on est vraiment comme ça... au bout du rouleau, de faire appel à ce qu'on appelle les allo-parents. Les allo-parents, c'est pas les parents au téléphone, hein. C'est les adultes qui peuvent être amenés à prendre soin du bébé en dehors de la mère.
Oui.
Premier allo-parent, c'est le père. Et puis, ça peut être les grands-parents, ça peut être une grande sœur, une cousine, une amie. Et je pense que effectivement, peut-être que des fois, ça peut être utile de demander à une grand-mère de venir passer la nuit avec le bébé. C'est-à-dire que le bébé, il va pas être laissé tout seul dans son coin à pleurer, mais peut-être que la grand-mère va pouvoir s'en occuper, le consoler, le réconforter et que les parents dorment une nuit entière ou presque.
Oui, récupèrent un petit peu. Mais oui, on en parlait tout à l'heure avec les autres pays du monde. C'est vrai qu'on est, on est un peu chacun chez soi en France, alors qu'on n'hésite pas dans d'autres pays à faire appel
absolument
à la mamie, à la tata, là, et enfin, toutes les personnes du foyer élargi, comme on dit.
Voilà.
Ben écoutez, merci. Donc, en conclusion, soyons compréhensifs et indulgents avec nos petits qui font dodo comme ils peuvent. Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur le sommeil. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des cœurs et des étoiles sur Apple Podcast. Écrivez-nous sur le Facebook, l'Insta de parents ou le forum de parents.fr. On a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Saada. Je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Saintas. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère. Merci, au revoir.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.